l'heure du rendez-vous d'Haïti et des Amériques. C'est avec vous, Juliette Jacquemin, bonjour.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Les associations de journalistes en Haïti condamnent les menaces de mort contre un reporter, menaces proférées par le maire de la ville d'Ecaï. On reviendra avec Amélie Baron sur les difficultés qu'il y a à être journaliste en Haïti. Le président vénézuélien Nicolas Maduro veut avoir une conversation avec Donald Trump, il l'a dit hier devant l'Assemblée constituante, alors que les États-Unis ont encore pris des sanctions contre plusieurs responsables vénézuéliens. Cette semaine, on y reviendra dans notre revue de presse. Et puis Quito, illuminé, c'est en ce moment la capitale équatorienne célèbre sa deuxième édition de la Fête des Lumières, une fête inspirée de celle qui existe à Lyon en France. Le succès promet d'être au rendez-vous.
C'est une excellente initiative. Les habitants peuvent venir visiter le centre historique, mais avec une autre perspective. Cela leur donne une raison supplémentaire de venir au centre. L'an dernier, le succès populaire a été tel qu'il y a eu un certain manque de coordination. On ne pouvait pas circuler. Mais les autorités ont pris des précautions cette année. C'est mieux organisé.
Un reportage d'Éric Sanson à retrouver à la fin de cette émission.
Port-au-Prince, 89.3 FM.
Voilà des menaces particulièrement inquiétantes à l'encontre de la liberté de la presse en Haïti. Un journaliste de la ville d'Ecaï a été menacé de mort par le maire de la cité, Gabriel Fortuné. Il était mécontent d'un reportage peu favorable à son travail. Toutes les associations de médias se sont immédiatement unies pour dénoncer cette attaque, mais Gabriel Fortuné lui maintient ses propos. Il accuse le reporter d'être à la solde d'opposants peu éthiques. Quoi qu'il en soit, le problème est plus large. C'est la question de la précarisation du métier de journaliste dans son ensemble en Haïti qui est posée à nouveau. Amélie Baron.
Regretter qu'il n'y ait pas de service secret opérationnel pour tuer un journaliste. Avec ces quelques mots on ne peut plus direct, le maire d'Ecaï a réveillé toute la profession qui, en Haïti, bondit à chaque fois qu'une menace se fait sentir contre la liberté d'expression. Mais au-delà de ce cas particulier, il est nécessaire de souligner que l'univers journalistique national est morose, pour ne pas dire même en perdition. Jacques Desrosiers, secrétaire général de l'Association des journalistes haïtiens, affirme qu'il est effectivement compliqué d'exercer le métier aujourd'hui dans le pays.
Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de menaces systématiques, mis à part les dernières déclarations du maire d'Ecaï, mais il n'y a pas de menaces systématiques contre les journalistes et des pressions gouvernementales d'un secteur ou d'un autre contre les journalistes. Mais compliqué, oui, c'est compliqué, vu l'environnement du journaliste, c'est compliqué.
Compliqué sur le plan économique, il y a beaucoup de corruption de journalistes.
Le personnel médiatique se renouvelle 90% tous les 10 ans. Il est rare ici de trouver un journaliste qui a 12, 15 ans, 20 ans de pratique. Pas d'avantages sociaux, salaire misérable. Le traitement dans les médias même favorise que le personnel se renouvelle tous les 10 ans. Aujourd'hui, il y a un truc qui se développe au niveau des médias. Chaque acteur politique dans les régions, chaque sénateur, chaque homme fort cherche à avoir son propre média. Et ça crée un problème politique. On peut avoir des conflits d'intérêts avec les journalistes qui travaillent dans ces médias-là. Corruption, il y a des tentatives des hommes politiques de corrompre des journalistes par des PDM, par des frais, parce que les journalistes, aujourd'hui, 60% des journalistes ne vivent pas vraiment du métier.
Donc il y a des conflits d'intérêts et les menaces sont possibles de la part des politiques sur le contenu d'un média.
Certainement. Si... Dans les régions, par exemple, on a des hommes politiques qui ont des médias, deux adversaires politiques. Certaines fois, ils utilisent leurs médias pour régler leurs conflits. Et là, le journaliste, dans une station de radio, appartient à X homme politique qui rapporte une information relative à Y homme politique de l'autre média, et ça devient compliqué.
Du coup, est-ce qu'on peut dire... tristement, qu'il n'y a pas d'information, mais que de l'opinion sur les radios et sur les médias en Haïti.
Il y a de l'opinion. Ce qui apporte de la popularité, c'est l'opinion. Il est plus facile d'être un journaliste d'opinion que un journaliste d'information. Il n'y a pas vraiment d'information ici aujourd'hui. Il y a plus d'opinion. L'autre aspect, c'est que, mis à part l'opinion, le journaliste d'opinion, on a une forme de journaliste de caisse de résonance. On rapporte ce que disent les communicants, ce que disent les officiels.
Les journalistes n'étant pas bien payés, ils se servent du métier comme un tremplin vers une autre carrière.
Oui, parce qu'il y a tremplin vers des postes politiques dans les régions. Il y a pas mal de journalistes qui sont devenus candidats à un poste électif, etc. Et tremplin également pour voyager, pour laisser le pays également. ce qui se passe là avec les jeunes qui laissent le pays, ça concerne également des journalistes également.
Est-ce que ce n'est pas triste pour la démocratie, puisque la population a besoin de médias forts?
Ça, on est en train de vivre les conséquences là. C'est dangereux. On est dans une situation assez compliquée ici. L'avenir de la démocratie en Haïti est vraiment, vraiment menacé parce que les médias ne sont pas forts vraiment.
Amélie Baron, Port-au-Prince, RFI.
Et il est 8h15 à Port-au-Prince. Et la revue de presse des Amériques, c'est avec Laetitia Farine. Bonjour Laetitia.
Bonjour.
Et ce qui fait la une des journaux américains aujourd'hui, c'est cette demande du président vénézuélien Nicolas Maduro. Il veut avoir une conversation avec Donald Trump alors que les États-Unis ont pris des sanctions cette semaine contre plusieurs responsables de la très controversée Assemblée constituante.
Ouais, la conversation pourrait avoir lieu par téléphone ou se faire à New York à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations Unies le 20 septembre. D'après El Universal, c'est en tout cas le souhait émis par Nicolas Maduro lors d'un discours devant l'Assemblée constituante. Assurant vouloir entretenir des relations normales avec les États-Unis, Nicolas Maduro n'a toutefois pas hésité à critiquer ouvertement les sanctions américaines prises mercredi contre 8 responsables vénézuéliens. Il a d'ailleurs qualifié ironiquement Donald Trump d'empereur et de sultan.
Et même de dictateur, Nicolas Maduro, qui a d'ailleurs été plutôt menaçant à l'égard des États-Unis lors de ce discours.
Si vous nous attaquez, nos armées vont s'élargir à tous les champs de bataille de l'Amérique latine et des Caraïbes. Et nous combattrons de nouveau les batailles d'indépendance de Boyacá, Junín et Ayacucho. Le Venezuela ne se rend pas. Le Venezuela se battra toujours avec dignité. Et si nous devons le faire avec les armes, notre armée le fera les armes à la main. L'Empire américain doit le savoir. Et ceux qui sortent dans la rue pour exprimer leur intolérance et leur haine seront capturés et jugés et punis avec des sentences sévères de 15, 20 et 25 ans de prison. Voilà ce que je propose ici comme loi.
Voilà le président vénézuélien Nicolas Maduro, très martial. On l'entend en Argentine. Les primaires en vue des législatives du 22 octobre prochain se préparent. Elles auront lieu ce dimanche. Et d'ores et déjà, l'opposition fait déjà part de ses doutes à propos de l'impartialité de l'INDRA, cette entreprise qui organise le scrutin.
Oui, c'est à lire dans le quotidien Clarín. Selon le chef de l'opposition à l'Assemblée, le PDG de l'INDRA aurait déjà des connexions avec la famille du président Mauricio Macri. Lors d'une conférence de presse, il a déclaré que ce serait grâce à ces connexions que l'entreprise aurait remporté le contrat de 410 millions de dollars pour organiser électroniquement le recompte des voix lors des primaires. À l'approche des élections, ces déclarations visent à discréditer le parti au pouvoir, déjà donné gagnant selon les sondages. À noter toutefois, comme le fait remarquer Parina Dossé, que l'ex-présidente Cristina Kirchner pourrait remporter la province de Buenos Aires, le district le plus important du pays.
C'est une saisie spectaculaire en Colombie. Une tonne de cocaïne et tenez-vous bien, un sous-marin destiné au trafic de drogue ont été interceptés par les autorités. Une saisie qui tombe à pic en plus deux jours avant l'arrivée à Bogota du vice-président américain Mike Pence pour entamer sa tournée en Amérique latine.
Dans les colonnes d'El Colombiano, le sous-directeur de la police contre le trafic de drogue s'est ouvertement réjoui d'avoir saisi un chargement appartenant au clan del Golfo, le premier producteur mondial de cocaïne selon l'ONU. L'offensive du gouvernement contre le clan du Golfe a donné de bons résultats. Les différentes saisies et arrestations fragilisent les finances de ces narcotrafiquants et ils comptent désormais moins de personnes dans leur rang. Nous nous rapprochons du chef de l'organisation, a-t-il déclaré. Parallèlement, un bateau semi-submersible, un sous-marin de 17 mètres de long, capable de transporter jusqu'à 5 tonnes de cocaïne vers l'Amérique centrale et les États-Unis a été intercepté par l'armée dans une localité sur le Pacifique, près de la frontière équatorienne. Parmi les sujets de discussion entre Juan Manuel Santos et Mike Pence dimanche, figure justement le trafic de drogue, rappelle El Tiempo, car les États-Unis se disent inquiets de l'augmentation des surfaces cultivées de 100% au cours des trois dernières années.
Une tournée américaine de Mike Pence alors qu'aux États-Unis, la presse réagit aux récentes révélations du département d'État à propos d'un incident diplomatique qui a eu lieu à Cuba en mai dernier.
Selon les autorités des États-Unis, des diplomates américains ont quitté Cuba après avoir subi une perte d'audition causée par une exposition à un dispositif sonique. Comprenez, un système émettant des ultrasons inaudibles à l'oreille humaine. Ce dernier aurait d'ailleurs été installé à l'intérieur et à l'extérieur des résidences. résidence des diplomates. Dans les colonnes du Miami Herald, plusieurs hommes politiques américains ne cachent pas leur consternation. Le gouvernement cubain harcèle le personnel américain travaillant à La Havane depuis des décennies. Cela n'a pas changé malgré les volontés d'apaisement voulues par le président Obama. C'est ce qu'a déclaré le sénateur républicain de Floride d'origine cubaine, Marco Rubio.
Et puis aux États-Unis, toujours dans la banlieue de Los Angeles cette fois, la victoire judiciaire d'une jeune femme musulmane face à des policiers qui lui avaient enlevé son voile de force.
85 000 dollars de dommages et intérêts, c'est la somme que la ville de Long Beach a accepté de verser à Kirsty Powell pour régler l'affaire à l'amiable. Les faits remontent à mai 2015, rappelle le Los Angeles Times. Suite à l'arrestation de la jeune femme lors d'un contrôle routier, des policiers lui avaient retiré son voile de force alors qu'elle était en garde à vue. Et ce, devant des agents et des détenus de sexe masculin. Kirsty Powell a été humiliée quand ses croyances religieuses et son intégrité personnelle ont été bafouées. C'est ce qu'a déclaré son avocate avant d'ajouter que rien ne peut justifier le retrait à une personne d'un couvre-chef de nature religieuse.
Merci Laetitia Farine d'avoir été avec nous pour la revue de presse. Une revue de presse à retrouver sur notre site internet www.rfi.fr. On connaissait la fête des Lumières à Lyon, en France, cette fête qui chaque hiver illumine pendant plusieurs jours la capitale des Gaules. Et voilà 2 ans que celle-ci est exportée à Quito. La 2e édition équatorienne de la fête des Lumières bat son plein en ce moment dans la capitale depuis mercredi dernier. L'an dernier, la première édition avait été un succès colossal. 1,5 million de personnes étaient sorties dans les rues. Une fête co-organisée par la mairie de Quito et par l'Alliance française où s'est rendu notre correspondant Éric Sanson.
Tout comme il y a un an, le succès populaire de la fête de la lumière version Équateur ne se dément pas. Le partenariat entre Lyon et Quito a commencé il y a un peu plus de 2 ans. Le secrétaire municipal à la culture, le fameux photographe Pablo Corral Vega, a relancé Jean-François Azurvic, le directeur de la fête des lumières de Lyon à plusieurs reprises. Son insistance a fini par porter ses fruits.
Ils m'ont envoyé des photos, moi j'étais pas dubitatif mais un peu attentif et on s'est rencontrés à Mexico lors d'un festival lumière et il m'a invité à venir voir la ville. Il s'agissait de trouver une opportunité intéressante pour démarrer une première édition. Et l'année dernière, au mois d'octobre, s'est tenu le forum Habitat 3 qui permettait de lancer pour Quito un événement grand public et pour Lyon d'avoir une très belle visibilité au niveau mondial.
La 2e édition vient à peine de commencer mais le maire de Quito a déjà l'ambition d'en faire la principale manifestation du genre en Amérique latine. Il l'a répété mercredi lors de l'inauguration de ses 5 nuits de spectacle. Un pari en passe d'être gagné, selon Jean-François Zuravic.
Ce qui me fait très plaisir, c'est que ça prend la tournure, effectivement, d'un événement qui va être récurrent. Et ça, c'est très très intéressant, parce que je vous cache pas qu'on a fait d'autres événements très importants à l'île Maurice ou à Dubaï, où on a fait un one-shot, une seule édition, et ça n'a pas été renouvelé. Et là, on est dans un modèle qui va certainement continuer, et je l'espère fortement.
Prise de court l'an dernier par l'afflux de spectateurs, les autorités ont aujourd'hui déployé 3000 policiers, pratiquement banni la circulation automobile de tout le centre historique. Des plans ont été distribués pour faciliter la circulation du public. Une bonne volonté qui facilite le travail des artistes lumière, comme Éric Michel.
Voilà, il y a une bonne volonté, il y a des équipes à la fois de la municipalité, de l'Alliance française, et puis des équipes locales qui, moi je voyais leur joie hier quand on a commencé les premiers tests de lumière, ils ont quand même aussi la sensation de contribuer à un événement assez... exceptionnel.
Cette année, le nombre de bâtiments historiques traités est passé de 5 à 9 avec des artistes français mais également équatoriens. Gérant de l'hôtel Casas, Luis Chico s'en félicite.
C'est une excellente initiative. Les habitants peuvent venir visiter le centre historique, mais avec une autre perspective. Cela leur donne une raison supplémentaire de venir au centre. L'an dernier, le succès populaire a été tel qu'il y a eu un certain manque de coordination. On ne pouvait pas circuler. Mais les autorités ont pris des précautions cette année. C'est mieux organisé.
Serveuse dans une cevicheria, Lady Vera sait que le succès de la fête des Lumières est pour elle synonyme de plus de pression.
Oh, il y a tellement de monde qu'on ne peut pas marcher. C'est beau, mais pour nous, dans les restaurants, c'est quand même plus de travail. J'espère qu'ils m'autoriseront à sortir un moment pour aller voir ce spectacle.
Parmi les œuvres présentées cette année, sur la cathédrale, la basilique et de nombreuses églises du centre historique, certaines ont été créées spécialement, d'autres adaptées ou apportées de Lyon, comme Platonium, développé par Éric Michel à la demande du CNRS pour célébrer l'année internationale de la lumière.
C'était pas le format fête de la science classique, hein. C'était plutôt d'offrir au public à Lyon, lors de la fête des Lumières, une œuvre résolument futuriste qui se nourrit des recherches en fait scientifiques qui utilisent la lumière. Et là maintenant, on est très heureux de la présenter à Quito.
Daniel Klipper lui propose une redécouverte de la cathédrale. Il s'est adapté à l'architecture de l'église et de la place centrale de Quito.
Je ne propose pas un spectacle où il y a un début et une fin, mais c'est plus une vraie mise en lumière avec des mouvements, avec des choses très lentes qui permettent de passer, d'aller d'un endroit à l'autre et de tourner la tête et de dire, tiens, ça je l'avais pas vu. Pour moi, c'est vraiment une découverte, une redécouverte de la cathédrale.
Apparemment destinée à être intégrée à la politique touristique de la capitale équatorienne tous les mois d'août, mois de la culture à Quito, cette manifestation porte haut le savoir-faire des artistes français et de la ville de Lyon. Eric Sanson, Quito, RFI.
RFI, midi 25 en temps universel.
Le journal de l'Outre-mer.
Et bonjour Tatiana Geiselman.
Bonjour Juliette.
Tatiana, les députés anti-IS sont inquiets. Le gouvernement souhaite diminuer le nombre de contrats aidés pour le second semestre 2017. Des contrats auxquels les collectivités martiniquaises et guadeloupéennes ont fortement recours.
Et oui, les écoles, les hôpitaux, les associations, les emplois aidés sont très nombreux et surtout ils sont essentiels aux Antilles. Alors l'annonce du gouvernement de supprimer une grande partie d'entre eux ne passe pas. Mercredi, lors des derniers débats à l'Assemblée nationale, la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, s'est voulue rassurante. Selon elle, aucun chiffre définitif n'a encore été arrêté et l'outre-mer reste une priorité concernant ces emplois aidés. Mais pour les élus guadeloupéens, cette réponse ne suffit pas. Hélène Vainqueur de la Nouvelle Gauche, Justine Bénin et Max Mathiasin du Modem s'opposent fermement à ces suppressions de postes. Max Mathiasin est au micro de Guadeloupe Première.
Ça nous impacte de deux façons. D'un point de vue financier, puisque nous sommes une économie en grande difficulté. Je crois qu'il y a plus de 500 emplois aidés pour le second semestre en attente de financement. Aujourd'hui, nous ne savons pas encore quel sort sera réservé à ces personnes qui sont en difficulté, à ces jeunes qui attendent. Je suis contre tout coup de rabot qui ne serait pas compensé par d'autres crédits et toute diminution de moyens aux Outre-mer et à la Guadeloupe singulièrement, quand nous savons que nous sommes réellement en retard de développement et en retard de considération par rapport à l'Hexagone.
Et la diminution des contrats aidés inquiète aussi en Martinique, où 2000 emplois seraient menacés. Et outre les collectivités, ce sont aussi les entreprises qui pourraient en pâtir. Patrick Mariello est le directeur d'une auto-école nommée CCDI. Sur sa dizaine de salariés, 5 sont en contrat aidé.
Ces aides sont très intéressantes, pour ne pas dire indispensables, dans le cadre de son fonctionnement. Et aujourd'hui, les prescripteurs qui sont notamment Pôle emploi et la mission locale ne sont pas encore en mesure de donner suite à nos demandes dans la mesure qu'ils n'ont pas encore reçu le budget. Nous envisageons d'embaucher un certain nombre de personnes. Nous sommes en attente que cette situation se débloque pour pouvoir embaucher les personnes en question. Alors il y a un double avantage. D'une part, c'est qu'on bénéficie d'une aide financière et d'autre part, nous bénéficions d'exonération de charges patronales. Et compte tenu des activités que nous faisons, si je prends le cas de CCDI, ce sont des activités qui s'adressent à un public qui n'a pas de gros moyens, ça nous permet de proposer des services à moindre coût.
Patrick Mariello au micro de Bianca Carreto pour Martinique Première. Et en Guyane, c'est la situation des migrants qui inquiète les élus. Ce matin, le sénateur Antoine Karam a interpellé le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb. Dans une longue lettre, il réclame la mise en place d'un plan d'action. Les détails avec Nickerson Perdus.
Antoine Karam, dans son courrier adressé à Gérard Collomb, revient sur les mouvements sociaux et les 30 premières mesures de l'accord de Guyane en cours de mise en œuvre. Positif selon lui, mais compliqué avec la pression migratoire de ces dernières années. Une augmentation, dit-il, qui fait de Cayenne le deuxième guichet de France après Paris. Ce qui met à mal, je cite, un dispositif d'accueil déjà au bord de l'asphyxie. Rappelant que 95% des demandes d'asile du territoire sont rejetées par l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Antoine Karam précise que la situation de la Guyane n'est comparable à aucun territoire. Il faut impérativement trouver une solution pérenne pour endiguer cette explosion de demandes d'asile. Le sénateur réclame au ministre un état des lieux et la mise en place d'actions à court et long terme sur la situation migratoire de la Guyane.
Et pour rappel, la Guyane est le département français qui enregistre plus de 40% des demandes d'asile reçues par la France. Bonne journée Juliette.
Bonne journée et merci Tatiana Geiselman. Merci aussi à Ovidio de Souza aux manettes de cette émission. Émission qui revient lundi. D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur internet rfi.fr, sur Facebook aussi le journal d'Haïti et des Amériques. RFI 14h30 ici à Paris.
Les grandes voix d'Afrique.
Sayouba Traoré.
Retrouvez les grandes voix de la littérature africaine, une production tirée des archives sonores de Radio France Internationale. Cette semaine, Aimé Césaire, Mongo Biti, Olympe Bellikenom, Jean-Baptiste Tati Luta et Werwere Liking.
Les grandes voix d'Afrique, Sayouba Traoré.
Du lundi au vendredi, à partir de 13h10 TU.
RFI.